affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Pendant des siècles, nous avons minimisé le rôle de notre cerveau. La science moderne a dévoilé son importance. Les pionniers travaillaient sur des matières mortes à partir de dissections. Et puis, les techniques d'imagerie sont arrivées. Ces nouveaux outils permettent de voir et de comprendre le fonctionnement de nos neurones. Chaque nouvelle image nous invite à repenser les liens entre notre corps et notre esprit. C'est ce que nous explique Stanislas Dehaene. Il est membre de l'Académie des sciences et titulaire de la chaire de psychologie cognitive au Collège de France. Il a été l'acteur et le témoin de ces progrès fantastiques. Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Alors vous sortez un livre magnifique qui s'appelle « Face à face avec son cerveau » aux éditions Odile Jacob. Et le parti pris, c'est vraiment de montrer ces images du cerveau qui pendant des siècles nous étaient restées inconnu, on a l'impression que vous êtes un peu comme un explorateur qui découvrait un nouveau territoire.
Oui, effectivement, parce que j'ai eu la chance de passer toute ma carrière en suivant les progrès de l'imagerie cérébrale. Et en rejoignant le CEA, j'ai pu moi-même participer avec l'IRM à 3 Tesla, à 7 Tesla. Vous savez que maintenant, à Neurospin, sur le plateau de Saclay, on a la plus grosse IRM humaine du monde à 11,7 Tesla. Donc on ne cesse de progresser dans notre capacité de voir le cerveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'IRM, il y a aussi chez l'animal des techniques de visualisation par imagerie photonique, deux photons, trois photons qui nous manquent chaque neurone, un par un. Et surtout, et vous l'avez dit, ce n'est pas seulement l'anatomie du cerveau, mais c'est aussi l'activité du cerveau. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est pas seulement d'ailleurs de mettre de belles images. Le cerveau est un bel organe et je pense que les images du cerveau sont aussi belles que celles des galaxies. Mais j'ai voulu aussi mettre des images qui avaient du sens, des images qui nous parlent sur nous-mêmes. Et c'est l'idée de ce face-à-face avec son cerveau, c'est le titre du livre. Le lecteur se trouve face à sa propre activité mentale. Tout ce qu'il voit dans le livre, chaque page et une image, c'est ce qui se passe en ce moment même dans son cerveau.
Vous-même en avez fait l'expérience parce que la première image, c'est celle du cerveau de l'auteur.
Oui, c'est pour ça aussi que c'est face à face avec son cerveau. Je me suis retrouvé évidemment très tôt à passer dans nos IRM. Et c'est un souvenir particulier parce que c'était une IRM, là encore, prototype qui avait été construite par le CEA à 3 Tesla. C'était la première en Europe. Et il fallait se glisser non seulement donc, dans le tuyau de l'aimant. Les IRM sont des gigantesques aimants d'à peu près 90 cm de diamètre. Mais à l'intérieur, le diamètre se rétrécit jusqu'à ce qu'on ait une antenne autour de la tête qui, dans mon cas, il fallait que j'appuie sur mon nez pour que je rentre dans cette antenne. Et donc, il y avait un tout petit peu de claustrophobie, d'anxiété. Et puis, quelques minutes plus tard, je suis sorti et j'ai vu l'anatomie de mon cerveau. Avec un peu d'anxiété, parce qu'il y avait un artefact. Vous savez que ces images sont reconstruites hein, avec des algorithmes mathématiques sophistiqués. Et il peut y avoir des anomalies dans la reconstruction. Et dans mon cas, il y avait ce qu'on a compris après être un artefact mathématique, mais qui m'a causé un petit peu d'anxiété pendant quelques minutes. Mais aujourd'hui, on peut faire ces images à un débit et une facilité absolument extraordinaire. Les images de l'activité du cerveau, on est capable d'en prendre tous les centaines de millisecondes, voire toutes les secondes, c'est devenu très facile. On peut voir l'activité de l'ensemble du cerveau toutes les secondes et donc le suivre dans le temps. Et les machines sont devenues aussi beaucoup plus confortables, ce qui fait que nous pouvons faire passer de jeunes enfants, par exemple, d'âge scolaire. Nous le faisons, c'est une activité importante du centre Neurospin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui change dans le cerveau de l'enfant lorsqu'il va à l'école, lorsqu'il apprend à lire ou à calculer. Et donc, la machine est tout à fait confortable pour permettre à un jeune enfant de passer quelques dizaines de minutes dans l'IRM.
Ce qui apparaît dans ces images, c'est que chaque cerveau a son individualité. Il y a des zones communes, des noyaux communs, mais ensuite vous montrez bien que les contours de ces régions varient d'une personne à l'autre.
Alors effectivement, c'est universalité, parce que nous avons tous un cerveau d'Homo sapiens, et tous les humains, quel que soit l'endroit où ils résident, ont un cerveau avec une grande similarité, mais ensuite, à l'intérieur de cette universalité, il y a de la diversité. Et de la même manière que nos empreintes digitales varient, les plissements de notre cerveau varient, la force des connexions d'une région à l'autre varie, les terminaisons nerveuses dans leurs détails varient, c'est ça qui nous permet d'apprendre des choses nouvelles, et donc en fonction de nos expériences, nous avons aussi des cerveaux légèrement variables, et également l'épaisseur du cortex varie en fonction des apprentissages. Donc tout ceci crée de l'individualité, mais à l'intérieur d'un patron universel. Et il faut bien comprendre qu'au départ, nous avons tous des compétences dans des domaines clés. Je pense en particulier aux mathématiques qui m'intéressent énormément. Il ne faudrait pas croire qu'il y a des personnes douées en maths et pas douées en maths. Ce qui est très largement le cas, c'est un impact extrêmement fort de l'éducation à partir d'une base qui est très largement universelle. Tous les bébés, par exemple, ont des compétences pour le langage, pour les nombres, pour l'espace, qui servent de socle aux apprentissages.
L'apprentissage commence in utero. C'est une découverte que nous faisons en lisant votre livre. Qu'est-ce qu'apprend un bébé dans le ventre de sa mère sur lui-même ?
Alors, on ne sait pas énormément de choses, mais on sait qu'il entend à peu près à partir de 6 mois et demi de grossesse. Les sons sont évidemment filtrés par les tissus, mais le bébé entend quand même la voix de sa mère et il entend en particulier la prosodie, c'est-à-dire la mélodie. Il n'entend sans doute pas le détail des phonèmes, mais il entend déjà la mélodie. Et à la naissance, il a une certaine idée de la mélodie de sa langue et il va préférer écouter sa langue maternelle plutôt qu'une langue étrangère.
Il développe aussi une sorte de rapport à son propre corps, en tout cas aux limites de son corps ?
Oui, ça ce sont des découvertes plus récentes. En fait, il y a de l'activité spontanée dans le cerveau et de l'activité musculaire spontanée, également dans la rétine. Donc il faut comprendre que le tissu nerveux est un tissu excitable spontanément qui génère sa propre activité. C'est ça qui fait que le fœtus va bouger dans le ventre de sa mère, et le retour sensoriel donné par ces mouvements ou par ces ondes qui se propagent sur la rétine va organiser le cerveau. Et donc il y a une partie de l'apprentissage qui se produit déjà simplement parce que le cerveau interagit avec son corps, interagit avec lui-même et s'auto-organise.
Ce que vous montrez, c'est que cet apprentissage est vraiment très fort pendant toute la période de l'enfance grâce à la grande plasticité du cerveau. C'est une notion clé.
Plasticité, c'est un mot-clé absolument, et j'essaye de l'illustrer par des images les plus concrètes possibles. On voit par exemple dans le livre ces épines dendritiques. Vous savez que les neurones pyramidaux du cortex sont couverts de petites épines. Ouais, d'abord, il faut imaginer donc un arbre, ce qu'on appelle les dendrites, qui reçoivent les informations des autres neurones. Et les synapses en provenance d'autres neurones vont atterrir sur des petites structures en forme de champignons qu'on appelle les dendrites. Donc un neurone pyramidal dans le cortex humain peut avoir 10 000 petits champignons de ce type qui reçoivent des synapses. Et ces champignons bougent, ils grandissent, ils disparaissent, ils s'élargissent, ils se stabilisent ou ils sont éliminés en permanence. C'est ça la plasticité, il faut l'entendre dans un sens vraiment très littéral. Le cerveau bouge, toutes ces cellules sont des cellules vivantes, se déplacent. D'ailleurs, au cours de la construction du cerveau, elles nagent littéralement ou elles grimpent les unes sur les autres pour atteindre leur position dans le cortex. C'est une machine qui se construit elle-même et qui donc se déplace en permanence. Alors effectivement, au cours de la petite enfance, cette plasticité atteint son pic. On a un pic de surproduction de synapses qui se produit dans les premières années de vie, à des moments légèrement différents suivant les endroits où on se trouve dans le cortex. Et ensuite, on va éliminer certaines de ces synapses pour garder le circuit le plus fonctionnel possible. Et c'est pour ça que ces années de départ sont tellement importantes. Et dans les aires sensorielles, ça se stabilise assez rapidement. Dans les aires de plus haut niveau, comme le cortex préfrontal, par exemple, ça va rester un peu plus longtemps plastique, mais quand même perdre un petit peu de sa plasticité au fil du temps.
En fait, le petit enfant a des capacités immenses. Il est par exemple capable d'apprendre n'importe quelle langue, mais ensuite il se spécialise. Apprendre, c'est éliminer, c'est renoncer à certaines possibilités.
C'était le motto de mon maître Jean-Pierre Changeux, apprendre c'est éliminer. On le voit de diverses manières. Effectivement, à la naissance, les circuits du langage sont déjà là. C'est un point d'ailleurs très important pour les parents qui nous écoutent. Je montre des images de l'impact du langage dans le cerveau, mais il faut comprendre que ça se produit dès la première année de vie. C'est pas parce que le bébé ne parle pas que ses réseaux du langage ne sont pas déjà actifs. On le voit par IRM et ils sont latéralisés dans l'hémisphère gauche, déjà au bon endroit. Il y a vraiment un circuit qui attend des entrées linguistiques et plus il en reçoit, plus il va se développer. Et à l'âge de 4-5 ans, des collègues de MIT ont fait des images de corrélation entre le nombre de dialogues dans lesquels l'enfant a été engagé et l'activité du cerveau. Et on voit que la région de Broca, dans le cortex frontal inférieur gauche, cette aire classique découverte par Paul Broca, eh bien, son activité est d'autant plus importante que l'enfant a été engagé dans un dialogue. C'est pas seulement d'ailleurs passif, hein. La télévision ou la radio ne suffisent pas, il faut avoir un dialogue avec l'enfant et ça commence donc dans la première année de vie, c'est à ce moment-là, comme vous le disiez, qu'on va commencer à stabiliser par exemple les phonèmes de sa langue maternelle, donc on entend des contrastes spécifiques qui sont propres à notre langue. On ne se rend pas compte, mais par exemple, quand on fait la différence entre un R et un L, c'est une différence assez subtile, les Japonais ne vont pas la faire, ils n'ont pas appris à la faire. C'est dans la première année que se stabilisent ces différences-là.
Parce qu'ils n'en ont pas eu besoin, et ensuite, l'adulte, lui, va donner la priorité à la stabilité. Il y a une sorte de rigidification des structures du cerveau, est-ce qu'on peut parler comme ça ?
Oui, alors c'est aussi des découvertes relativement récentes. Certains neurones, et notamment les grands neurones inhibiteurs, s'entourent d'une sorte de grille qui les empêche de bouger, un filet. En anglais, on dit perineuronal nets, un filet autour des neurones. Et ce filet est assez rigide, un peu comme du cartilage. Et donc, voilà, c'est la plasticité est à ce moment-là arrêtée d'un point de vue strictement physique. Vous voyez, on touche là à la matérialité même de ce qui fait nos apprentissages. Il faut que les enseignants ou les parents qui nous écoutent imaginent que à chaque fois que l'enfant va à l'école, son cerveau revient transformé et on parle de quelque chose de l'ordre de plusieurs millions de synapses par seconde qui seraient éliminées ou stabilisées.
En quelques mois à peine, un enfant de CP par exemple voit son cerveau se transformer.
Oui, alors ça, ce sont des expériences qu'on a fait dans le labo. J'ai montré d'ailleurs ces images longitudinales. On a eu la chance de pouvoir accueillir des enfants tous les 2 mois, pratiquement. Et donc, on a 7 scans, pour la plupart d'entre eux, 2 IRM avant qu'il rentre au CP, et on avait choisi des enfants qui ne savaient pas encore lire, ce qui est la majorité, hein. Et puis ensuite, tout au long de l'année de CP, alors qu'ils apprennent à lire. Et on voit l'émergence de ce circuit de la lecture que j'ai tant étudié, très rapide d'ailleurs, hein. En quelques semaines d'école, les régions pertinentes s'activent déjà, notamment il y a cette aire que j'ai appelée la boîte aux lettres du cerveau, qui concentre la connaissance de la forme des lettres et des statistiques sur quelles lettres vont avec quelles autres lettres pour former des mots en français. Eh bien, cette région s'active déjà après quelques semaines d'entrée au CP et elle va augmenter son activité et surtout s'automatiser, devenir complètement inconsciente. C'est un traitement non conscient qui se produit dans cette région au fil, alors là, pour le coup, 1 ou 2 ans ou 3 ans d'apprentissage.
Vous utilisez le mot de miracle pour l'apprentissage de la lecture parce que c'est finalement une capacité assez récente dans l'histoire de l'évolution humaine. Et il n'y avait pas de zone dédiée spécifique dans le cerveau, comme par exemple pour reconnaître un mouvement, une image, un visage.
Alors le terme miracle, je ne sais pas s'il faut le conserver ou pas, mais c'est vrai qu'on a oublié à quel point on est différent à cause de cette invention culturelle dont nous voyons, nous, l'impact dans le cerveau. Alors, évidemment, si nous sommes capables d'apprendre quelque chose de nouveau, comme la lecture, une pure invention, pas anticipée par l'évolution, c'est parce qu'il y avait dans notre cerveau des circuits suffisamment proches de cette fonction. Et en l'occurrence, ce que nous avons vu par imagerie, c'est que la lecture recycle, reconvertit des circuits d'abord de la vision et ensuite du langage parlé. Elle les met en connexion. Lire, c'est en quelque sorte écouter avec les yeux. Voilà. C'est mettre en place un petit circuit qui convertit les chaînes de lettres en chaînes de phonèmes. Et au passage, donc, il faut spécialiser un petit morceau de cortex qui, sinon, ferait autre chose. Il est impliqué dans la reconnaissance des objets, des visages. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le recyclage neuronal. On reconvertit un morceau de cortex pour la lecture. On voit au passage que d'autres circuits se déplacent. Alors, c'est très léger. C'est sans doute sans conséquences fonctionnelles, mais l'aire des visages se déplace légèrement en direction de l'hémisphère droit parce que dans l'hémisphère gauche atterrit, chez la plupart d'entre nous, le circuit de la lecture. Donc, un apprentissage l'apprentissage culturel, ça réorganise en partie le cerveau.
Stanislas Dehaene, vous êtes intéressé également aux mathématiques et vous vous posez la question, à quoi ressemble le cerveau d'un mathématicien ?
Oui, c'était une envie de ma part depuis très longtemps de pouvoir
comprendre collègues.
Nos collègues, moi-même, parce que j'ai fait quand même des mathématiques à assez haut niveau au départ, en tout cas. Nous avons vu quelque chose d'assez simple en réalité. Des régions dans le cerveau des grands mathématiciens qui s'allument beaucoup plus que pour des personnes qui n'ont pas fait de mathématiques à des phrases qui n'ont de sens que pour eux, en réalité. Vous voyez, imaginez une expression mathématique sophistiquée sur des espaces multidimensionnels de Banach, je ne sais pas quoi. On a fait écouter ce type de phrase dans l'IRM et on a vu qu'il y avait toute une série de régions dorsales, en dehors des aires du langage, ça c'est très important, qui s'activent chez les mathématiciens. Ça répond en partie à l'interrogation des mathématiciens qui se demandaient quelle est la place du langage. Le langage sert à communiquer l'effet mathématique, mais à l'intérieur de notre cerveau, ce ne sont pas les aires du langage qui travaillent pour les mathématiques, ce sont beaucoup plus des aires spatiales et numériques. Et alors, c'est le dernier aspect de cette recherche que j'aime beaucoup, c'est que ces régions, elles ne sont pas unies aux mathématiciens, elles s'activent pour des faits que les mathématiciens ont appris, mais nous les avons tous. Et nous les activons déjà lorsque nous faisons des petits calculs, comme 2 plus 3, 5 moins 1. Et en fait, elles sont présentes très tôt chez le jeune enfant. La seule chose, c'est qu'elles se différencient progressivement, et sans doute aussi elles grossissent chez les personnes qui font plus de mathématiques. Donc c'est un circuit universel, mais qui est capable d'aller bien au-delà de ce qui se produit spontanément dans la nature, par le biais de l'école. L'école permet à ce circuit de s'épanouir beaucoup plus. Et je voudrais dire une chose là-dessus, parce que ça me paraît important. Les outils mathématiques, c'est comme la lecture. Ce sont des outils pour tous les cerveaux. Il ne faudrait pas croire qu'il y a des mathématiques qui sont juste pour les ingénieurs, c'est une carrière particulière. Et voilà. Je dis ça parce qu'en ce moment, il y a quand même cette idée que les mathématiques sont optionnelles en première, en terminale, et apparemment, moins d'élèves s'orientent vers les mathématiques. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ces outils pour la pensée, tout simplement, pour toute la pensée, et pour la démocratie, donc. Apprendre à comprendre un graphe mathématique, c'est extrêmement important. Un graphe de données, nous en aurons tous besoin. Nous devons tous apprendre la base des outils mathématiques.
Alors, il y a l'école et il y a aussi le repos. Et ce qui est intéressant, c'est que ce temps-là est extrêmement important pour le fonctionnement du cerveau. Il déploie une énergie folle pendant ces périodes dites de repos.
Oui, alors il y a le repos et le sommeil. Ce sont deux choses un petit peu différentes. Si vous vous allongez juste en pensant à rien, bah évidemment, vous ne pensez pas à rien. Et on a découvert que l'activité du cerveau est extrêmement intense dans ces moments-là, avec des circuits spécifiques, ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui s'allume, qui se recouvre pas mal avec les aires du langage. D'ailleurs, il y a sans doute une sorte de langage intérieur. Mais aussi les aires du cerveau social. Quand on pense aux autres et quand on pense à nous-mêmes, on utilise ce réseau du cerveau social qui est assez spécifique. Je montre des images de cette distribution des réseaux de la sémantique dans le cerveau, mais il y a des régions spécialisées pour les nombres, pour l'espace, pour les objets et pour les personnes. Et toute notre connaissance de la société se trouve concentrée dans certains circuits spécifiques. Puis alors, effectivement, quand on s'endort, on pourrait penser que tout ça s'arrête. Bah, pas du tout. Ça continue. Et là encore, avec une activité qui peut être très intense et qui se traduit chez l'animal par des décharges neuronales qu'on appelle de replay. C'est-à-dire que notre cerveau rejoue pendant le sommeil les épisodes de la veille. Et on le voit au niveau vraiment des neurones uniques, une trajectoire neuronale. On le voit chez la souris, par exemple, elle s'est promenée dans un labyrinthe à l'état de veille. Et puis, pendant le sommeil, les mêmes neurones qui s'activaient en chaîne alors qu'elle parcourait le labyrinthe, ce qu'on appelle les cellules de lieu, eh bien, se réactivent dans le même ordre, comme si l'animal faisait une sorte de trajectoire virtuelle. Et à tel point qu'on peut décoder l'activité de ces neurones et dire, tiens, dans son rêve ou dans son sommeil, l'animal pense qu'il est ici. Et on peut renforcer telle ou telle position. Si on lui donne une récompense en le faisant décharger ses neurones du circuit dopaminergique, eh bien l'animal, en se réveillant, va aller à cette position-là parce qu'il pense qu'il y a une récompense à cette position-là. Alors, si on transpose chez l'homme, avec toute la prudence nécessaire, mais il existe du replay, donc ce phénomène de réactivation dans le sommeil chez l'homme, et on sait que chez l'homme, c'est fondamental pour les apprentissages. Le sommeil consolide les apprentissages, mais aussi approfondit les apprentissages. On comprend mieux ce qu'on a vécu quand on a dormi. Et c'est un conseil qu'on peut donner à tous
aux
nos auditeurs.
Aux parents, de nouveau.
Et aux parents en particulier. Oui. Oui, aux parents, parce que ces phénomènes sont à peu près 3 fois plus importants, à durée de sommeil égale, chez les enfants que chez les adultes. Et évidemment, parce que le cerveau est en construction, c'est le moment où on apprend, et le sommeil est un ingrédient essentiel de l'algorithme d'apprentissage.
Qu'est-ce qui se passe au moment du grand âge, du vieillissement, par exemple, avec des maladies comme Alzheimer ?
Oui, alors ce n'est pas ma spécialité, hein, mais il y a effectivement dans le livre quelques images de ce qu'on est capable de voir par imagerie cérébrale dans la maladie d'Alzheimer. La très grande difficulté, c'est que cette maladie et d'autres maladies neurodégénératives commencent de façon très invisible. Et lorsqu'on est capable de détecter par imagerie les difficultés, bien souvent la maladie est déjà avancée. Le grand challenge est donc de trouver des marqueurs, des précurseurs, et on est capable maintenant d'avoir des marqueurs. C'est plutôt avec une autre méthode qui s'appelle la caméra à positron, qui est extrêmement sensible parce qu'on va injecter des toutes petites doses de radioactivité, et c'est une radioactivité artificielle, donc elle n'existe pas dans le corps, donc on est capable de la détecter dans des traces extrêmement infimes, et donc d'avoir des traceurs pharmacologiques pour telle ou telle molécule, tel ou tel récepteur. Et c'est ainsi qu'on commence à pouvoir voir les amas de plaques, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Mais ça reste un challenge important, et c'est fondamental parce que on commence à avoir tout petit peu de médicaments pour pouvoir intervenir, et il faudrait intervenir le plus tôt possible, et donc l'imagerie va sans doute jouer un rôle clé pour pouvoir détecter, confirmer qu'une personne est effectivement en train de prendre cette trajectoire de la maladie et intervenir le plus tôt possible.
Aujourd'hui, l'une des nouvelles frontières également des recherches sur le cerveau, c'est de mieux saisir ce phénomène de la conscience. Comment peut-on arriver à avoir une matérialité de la conscience ?
Oui, ça a été pendant longtemps un sujet un peu tabou. Et puis, on s'est aperçu qu'avec nos outils, on pouvait l'attaquer. C'est ce qu'on a fait avec Lionel Nakache en particulier, qui est neurologue à la Salpêtrière. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de manières d'attaquer ce sujet. Donc, j'ai mis dans le livre aussi beaucoup d'images qui sont convergentes. Par exemple, on peut regarder l'anesthésie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd la conscience parce qu'on est anesthésié ? C'est phénoménal. Vous recevez une dose de propofol et en quelques secondes, vous allez perdre la conscience et la récupérer. Elle se rallume, fort heureusement. Mais on peut aussi étudier des phénomènes d'accès à la conscience. Par exemple, nous avons été capables de créer des images subliminales. On peut flasher des images de telle sorte que vous n'en prenez pas conscience. Et pourtant, avec l'imagerie, avec des méthodes de psychologie, on peut montrer que le cerveau les a traités profondément. Alors le résultat de tout cela, c'est une théorie de la conscience qu'on a appelée la théorie de l'espace de travail neuronal global, appuyée par énormément d'expériences maintenant, et qui montre que, d'abord, il y a un énorme traitement non conscient dans le cerveau. Comme on n'en est pas conscient, bah, par définition, on ne le connaît pas, mais l'imagerie et la psychologie l'ont bien démontré. Et alors la conscience correspond à l'accès d'une toute petite partie de ce traitement de l'information à un espace de travail qui partage cette information. Et c'est pour ça que quand on est conscient, on peut par exemple en parler. On est capable d'expliquer ce qui se passe, ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu. Mais on est capable aussi de l'enregistrer en mémoire à long terme et d'y revenir par la suite. La conscience, c'est un circuit. C'est pas l'activité d'une aire cérébrale, c'est l'activité d'un circuit qui partage l'information et qui finit par la globaliser au niveau de tout le cerveau.
Là, vous marchez sur les terres de Freud, par exemple, qui, dans un tout autre domaine, a énormément réfléchi sur la conscience avec certaines théories. Est-ce que vos travaux invitent un peu à repenser notre rapport à Freud ?
Oui, moi, je veux bien admirer Freud pour ses idées pionnières, mais enfin, il n'a jamais mis à l'épreuve sérieusement ses idées. Ça a un intérêt historique, mais c'est vraiment complètement dépassé aujourd'hui. Et je souhaiterais vivement qu'on enseigne un peu plus la science en train de se faire, ou la science qui est déjà bien stabilisée dans les 30 dernières années, notamment en terminale, dans les cours de philosophie. Ça me stupéfie un peu qu'on passe autant de temps sur des théories historiques, et pas suffisamment, à mon avis, à ce qui intéresse d'ailleurs énormément les élèves, c'est-à-dire la science contemporaine et tout ce qu'elle apporte sur la vision de nous-mêmes. Je pense que l'imagerie cérébrale, c'est un accès à nous-mêmes. Et c'est le nouvel avatar de connais-toi toi-même. Parce que connaître soi-même, on peut essayer de pratiquer l'introspection, comme le faisaient les philosophes, mais aujourd'hui, l'introspection est quand même largement dépassée. et c'est la biologie qui nous parle, qui nous dit ce que nous sommes réellement. Et nous sommes la petite frange d'activité électrique et chimique de notre cerveau.
Vous dites que nous sommes une chose qui pense.
Ça, c'est Descartes qui l'avait déjà dit. C'est extraordinaire parce qu'on associe Descartes au dualisme. Mais on ne connaît pas assez le Descartes matérialiste qui essayait désespérément de comprendre comment marche le corps et le cerveau. Et il se trompait pas mal, il avait beaucoup d'imagination sur la glande pinéale, etc. Mais il était profondément matérialiste. Simplement, il n'arrivait pas à voir comment une machine, parce qu'il pensait que le corps des animaux, en tout cas, était une machine, mais il n'arrivait pas à voir comment cette machine pouvait produire des paroles et avoir une telle diversité de comportements, cette flexibilité de l'espèce humaine. Et il faut dire qu'on n'a pas encore complètement compris comment ça marche dans le cerveau aujourd'hui. L'intelligence artificielle n'a toujours pas réussi à imiter le cerveau humain. Donc les machines progressent, mais le problème de Descartes reste quand même posé, mais on est à peu près sûr que c'est une activité matérielle néanmoins de notre cerveau.
Quelles sont les spécificités du cerveau humain par rapport au cerveau des primates, par exemple ?
C'est ce que j'appelle la singularité de l'espèce humaine. Alors, on peut en discuter, c'est pas encore très bien connu, mais je suis persuadé que notre espèce a quelque chose de profondément différent, qu'un espèce de seuil a été franchi dans la computation, dans le calcul, et on le voit de différentes manières. On peut le voir au niveau anatomique, bien sûr, nous avons un gros cerveau. En fait, il est pas gros partout, il a grossi assez particulièrement dans les aires pariétales, préfrontales et temporelles de haut niveau, voilà, des aires d'intégration associative. Même au niveau d'un neurone, c'est assez extraordinaire, il y a des découvertes maintenant qui montrent que le calcul au niveau d'un neurone ne serait pas le même dans l'espèce humaine. L'intégration des dendrites, dont on parlait tout à l'heure, serait plus modulaire dans le cerveau humain, ce qui ferait qu'un neurone fait déjà plus de calculs à lui tout seul dans l'espèce humaine que dans d'autres espèces animales. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment comment ça se traduit par des capacités d'apprentissage supérieures. On pense tout de suite au langage, mais il faut penser au langage au pluriel. Il y a plusieurs langages dans le cerveau humain et il semblerait que cette capacité de combiner des informations qu'on voit en mathématiques, par exemple, on n'utilise pas forcément les mots, mais on est capable de combiner les concepts pour penser à un carré comme une figure à quatre côtés égaux et quatre angles égaux. Eh bien, cette capacité combinatoire semble totalement inexistante dans d'autres espèces. Là, il y a un déclic qui s'est produit. Alors, c'est sans doute la grande question pour mes recherches, en tout cas personnellement, dans les prochaines années.
Et justement, sur quel terrain avez-vous envie d'aller et commencez-vous à explorer ?
Toute la question pour nous, c'est le code neural. Comment, au niveau de neurones, on arrive à coder une information ? Et je pense qu'il y a un code neural unique à l'espèce humaine. Je pense que là, il y a une astuce évolutive qui a été trouvée, bien sûr fondée sur l'évolution, c'est pas apparu de nulle part, mais néanmoins, il y a une propriété nouvelle qui est un petit peu comme une machine de Turing, une capacité de combiner des symboles qui est apparue dans l'espèce humaine. C'est l'hypothèse sur laquelle je travaille. Et toute la difficulté, c'est de descendre au niveau le plus précis, peut-être au niveau des neurones uniques chez l'homme. C'est évidemment impossible par imagerie cérébrale. C'est possible maintenant chez certains patients épileptiques. Pour les étudier, on insère des électrodes dans le cerveau pour regarder les décharges et essayer de trouver le foyer épileptique. Et à ce moment-là, on peut enregistrer quelques dizaines de neurones et nous sommes en train d'analyser des signaux de ce type, issus du monde entier d'ailleurs, parce que ces patients sont assez rares. Donc, comprendre le code neuronal propre à l'espèce humaine.
Eh bien, un grand merci Stanislas Dehaene. Je rappelle le titre de votre livre « Face à face avec son cerveau ». C'est aux éditions Odile Jacob et c'est un livre passionnant où sur la page de gauche, vous avez toujours une image du cerveau et sur la page de droite, un point-clic qui est expliqué et nourrit vraiment des expériences des dernières décennies. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.